Laudetur Jesus Christus.
La guerre en Ukraine est une catastrophe honteuse pour toute l'humanité. Les mots forts du pape ce matin à l'issue de l'audience générale. François, qui a reçu avant cette audience la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Nous reviendrons au début de ce journal, nous entendrons au début de ce journal l'archevêque major de Kiev, Monseigneur Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique, nous dira comment il a vécu les 1000 jours de guerre qui déchirent son pays. Ce mercredi était aussi la journée mondiale du droit des enfants. Le Vatican organisera en février prochain une première rencontre mondiale dédiée à ce thème, annonce du pape aujourd'hui. François qui souhaite que l'Église accompagne mieux les plus jeunes. Nous y reviendrons. À la une de ce journal également, le Brésil et la Chine qui affichent leur unité. Xi Jinping était reçu aujourd'hui par Lula. Et puis nous irons à Haïti où la situation sécuritaire est toujours chaotique. Le travail des ONG est de plus en plus difficile. Témoignage ce soir de Médecins sans frontières qui a suspendu ses activités à Port-au-Prince.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, le pape est revenu ce matin à l'issue de l'audience générale sur la guerre en Ukraine qui déchire le pays depuis 1000 jours maintenant. Le souverain pontife a dénoncé une catastrophe honteuse pour toute l'humanité et renouvelé son appel à la paix et à demeurer aux côtés du peuple ukrainien martyrisé. François qui a lu aussi aux fidèles la lettre d'un jeune ukrainien l'implorant de parler de sa foi et de son amour qui donne un sens à ses blessures. Et alors que cette guerre se poursuit, l'archevêque majeur de Kiev, Monseigneur Shevchuk, appelle à ne pas laisser son pays seul ou à ne pas considérer l'Ukraine comme un problème. Le chef de l'église gréco-catholique témoigne ce soir de son expérience de ces 1000 jours. Il est au micro de notre consoeur Svitlana Dukovic.
Nous avons le sentiment d'être immergés dans un océan de douleur, de découvrir et de comprendre la douleur humaine. Depuis 1000 jours, nous avons appris plusieurs choses. Comme pasteur, la première chose, c'est qu'il ne faut pas être pressé de dire « je te comprends ». Beaucoup de gens de l'étranger, même des amis, nous disent « nous vous comprenons ». Mais ces mots nous causent une profonde douleur parce qu'on ne peut pas dire à un garçon qui a perdu ses jambes « je te comprends ». La compréhension passe par l'expérience. La deuxième chose, c'est qu'il est très important d'être présent, même si nous ne pouvons rien dire. Être simplement présent provoque parfois un moment de profond malaise. Mais la présence de l'Église est un sacrement qui rend visible la présence réelle du Seigneur au milieu de son peuple. La troisième chose, la plus importante, est la force de la parole. Elle apporte la puissance de Dieu, la vie, l'espérance. La parole de l'Évangile est vraiment la vie. Ce n'est pas une belle phrase ou une métaphore. J'ai vu de mes propres yeux que lorsque j'annonçais la parole de Dieu, cette parole faisait littéralement vivre les gens. C'est un miracle.
Monseigneur Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine. Avant l'audience générale de ce matin, le pape avait reçu la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Elle a visité ce matin l'hôpital pédiatrique du Bambino de Jésus, une structure liée au Saint-Siège. L'épouse du président Zelensky qui participe en ce moment même à une messe célébrée dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere par le cardinal Matteo Zuppi, l'envoyé spécial du pape François pour la paix en Ukraine. Kiev qui invite ses alliés occidentaux à ne pas céder à la peur après des menaces aujourd'hui de frappes russes sur des ambassades en Ukraine. Plusieurs chancelleries comme celle des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie ou encore de la Hongrie ont temporairement fermé leurs portes ce mercredi. Et puis, Kiev aura recours aux mines antipersonnelles américaines pour se défendre après les missiles à longue portée. Une décision qui provoque la colère de l'ICBL, la campagne internationale pour interdire les mines, prix Nobel 97, qui dénonce une décision désastreuse de Washington. Moscou accuse de son côté les États-Unis de vouloir prolonger la guerre. Ce mercredi était la journée mondiale des droits des enfants. Il faut trouver des moyens d'aider et de protéger des millions d'enfants encore privés de droits parce qu'ils sont exploités, qu'ils vivent en zone de guerre, parce qu'ils ont faim. Ce sont les mots du pape ce mercredi matin. Et pour offrir une plateforme d'échange à un vaste réseau d'experts internationaux, François a annoncé ce matin une première rencontre dédiée à ce thème au Vatican. Elle aura lieu le 3 février prochain. Le pape Marie Duhamel qui estime nécessaire que l'Église accompagne mieux les plus jeunes et qui appuie aujourd'hui sur l'accès accélérateur.
Oui, tout à fait. François était déjà à l'origine, on le sait, de la rencontre sur la protection des mineurs qui impulsa en 2019 une nouvelle dynamique dans la lutte engagée par l'Église contre les abus. Il revient à la charge aujourd'hui pour aborder des thèmes concrets, la guerre, la faim, lors de la prochaine rencontre en février, mais aussi plus spirituel. François souhaite que la pastorale des jeunes soit renforcée, une priorité, dit-il, pour l'Église. Et dans un chirographe publié ce midi, le pape crée ainsi un nouvel organe au sein de la curie, un comité pontifical placé sous son autorité pour que la première édition de la Journée mondiale de l'enfance célébrée en mai dernier ne reste pas qu'un beau souvenir pour ses participants. Le nouveau comité devra coordonner, promouvoir des initiatives nationales et régionales à l'occasion de cette journée de l'enfance, mais collaborer aussi avec les bureaux pastoraux des églises locales. L'idée est de donner donc plus d'universalité à l'événement pour faire en sorte que les enfants connaissent et aiment toujours mieux Jésus. Avec cette initiative, le pape souhaite que l'Église chrétienne fasse entendre les droits des enfants en plaçant au centre de son action pastorale la même attention que Jésus a eue à leur égard. Il lui faut aussi devenir une communauté éducative capable d'être elle-même évangélisée par la voix des petits. Pour François, l'Église universelle, en se revêtant des sentiments des enfants, pourra se dépouiller des signes de pouvoir, devenir une maison accueillante et vivable pour tous, à commencer par les enfants.
Marie Duhamel. Et ce matin, François a également annoncé la canonisation de deux modèles pour la jeunesse d'aujourd'hui, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati, deux laïcs italiens morts à 15 ans et 24 ans. L'un savait évangéliser sur Internet, l'autre manifestait une ardente charité à l'égard des plus pauvres et des malades. Ils seront canonisés lors de l'année jubilaire. Y aura-t-il un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël? C'est en tout cas ce qu'est venu discuter une nouvelle fois l'émissaire américain Amos Hochstein. Celui-ci a rencontré deux fois Nabi Berri, le président du Parlement libanais, membre du parti chiite Amal, qui sert d'intermédiaire avec le Hezbollah. Naïm Kassem, le chef du Parti de Dieu, a lui rappelé qu'il n'était pas question de signer un accord tant qu'Israël violait l'intégrité du territoire libanais. Concernant Gaza, une trêve semble bien lointaine. Les États-Unis ont opposé de nouveau leur veto à une résolution ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Et puis sur le front humanitaire, on a appris aujourd'hui que la Jordanie avait envoyé 8 hélicoptères d'aide pour la population gazaoui. Une première depuis 40 ans pour l'Irak. Le pays organise un grand recensement de sa population. L'opération a été plusieurs fois retardée en raison des conflits interconfessionnels. C'est mercredi et jeudi. Le couvre-feu est donc instauré dans le pays pour pouvoir compter tous les habitants. Le Brésil et la Chine, membres tous les deux des BRICS, veulent afficher leur volonté de promouvoir la paix et la démocratie dans le monde. C'est ce qui ressort de la rencontre aujourd'hui de la visite du président chinois Xi Jinping chez son homologue Lula. Le numéro un chinois participe au sommet du G20 en début de semaine. Pékin est le premier partenaire commercial du Brésil et entend bien se rapprocher davantage du géant sud-américain, tandis que Lula se méfie, lui, de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
Pour marquer les 50 ans de relations diplomatiques entre le Brésil et la Chine, de nombreux accords sur des secteurs clés vont être annoncés. Agroalimentaire, aviation, infrastructure et transfert de technologies. Les deux pays veulent intensifier leurs relations. Il faut dire qu'ils sont complémentaires. Lula espère plus de financement et écouler ses produits industriels. Tandis que pour Xi Jinping, le géant sud-américain est synonyme de sécurité alimentaire et d'abondantes ressources naturelles. Mais malgré les appels du pied, l'hôte brésilien n'a pas souhaité rejoindre les nouvelles routes de la soie. Pour les diplomates locaux, intensifier les relations est une bonne chose, mais trop se rapprocher est un risque. Suivant leur tradition diplomatique, ils tentent de maintenir de bonnes relations avec toutes les nations, et avec les tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis, ils ne veulent pas froisser les Américains. Reste qu'en cas d'ingérence trumpienne ou de menace économique, Brasilia pourrait être poussée encore un peu plus dans les bras de Pékin. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
L'ONG Médecins sans frontières annonce suspendre ses activités à Port-au-Prince suite à des violences et des menaces proférées par les forces de l'ordre. Sarah Château est la responsable des opérations en Haïti pour l'ONG. On l'écoute.
Jusqu'à présent, on avait régulièrement des incidents auprès de nos patients, ce qui est inadmissible, ce qui nous a amené à suspendre plusieurs fois, mais uniquement l'activité concernée. Là, ce qui fait qu'on suspend toutes nos activités, ce qui n'était jamais arrivé avant, c'est que des menaces maintenant sont proférées à l'encontre de nos équipes. C'est que ce n'est plus uniquement les patients qui sont potentiellement les victimes de ces groupes de vigilance, de ces forces armées, de ces opérations extrajudiciaires, mais c'est l'ensemble de nos équipes que la police les arrête régulièrement à différents checkpoints, barrages, et leur dit « la semaine prochaine, on va vous tuer, on va brûler vos voitures, vos hôpitaux ». Donc voilà, on se retrouve directement cible. Alors qu'avant, on était pris dans le piège d'incidents, mais parce que la police ou d'autres groupes cherchaient à intervenir sur les patients qu'on prenait en charge.
Sarah Chateau, responsable des opérations en Haïti pour Médecins sans frontières, elle répondait à Alexandra Sirgan. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée à tous.